province orientale, trois jours après les affrontements qui les ont opposés au FARDC, les miliciens de la FRPI de Cobra Matata sont rentrés dans leurs anciens maquis. La société civile locale se dit inquiète de l'attitude de cette milice. Comment analyser cette situation? C'est notre débat de ce soir. Pour en parler, je reçois Hubert Molichonendo, le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité et Ordre public de la province orientale. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Pierre Kibaka, président du groupe Justice et Libération, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Monsieur Kibaka, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Alphonse Maindo, bonsoir, vous êtes en ligne?
Bonsoir.
Oui, professeur, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les miliciens de la force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI ont regagné depuis samedi leurs anciens maquis dans la chefferie des Walendubindi en territoire d'Irumu. Cela trois jours après les combats qui les ont opposés au FRDC dans la périphérie du village d'Aveba. Suivons les détails dans cet entretien entre Berry Franklin Luchaka et Isaac Remo.
Isaac Remo, Yopé, bonsoir.
Bonsoir, Berry Franklin Luchaka.
Alors dites-nous, quelle est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la collectivité des Walendubindi après les affrontements la semaine dernière entre les FRDC et les miliciens de la FRPI?
Des sources locales indiquent que les miliciens de la FRPI ont regagné leurs anciens maquis vers Tchéi, à plus de 100 km au sud de Bounia. Les armes se sont tues depuis samedi dernier. Selon la société civile de Walendubindi, les FARDC assurent la sécurité des personnes et de leurs biens dans plusieurs localités qui étaient les théâtres des affrontements. Il s'agit notamment d'Aveba, de Tchekele, de Modiro, des Pony et des Bavi-Centre. Dans une rencontre dimanche à lundi dernier à Ruzinga et à Aveba avec les notables de cette entité, les autorités militaires ont demandé aux déplacés qui avaient fui les récents combats de retourner dans leurs villages d'origine qui sont sécurisés par l'armée.
En tout cas, c'est vraiment une bonne nouvelle, mais quelle est la position des miliciens sur la suite du processus de reddition après ces affrontements?
Le leader du groupe armé FRPI, Adiro Doumbadou, a réitéré son engagement à poursuivre le processus de paix avec les autorités militaires. Dans une interview accordée ce mardi dans l'après-midi à Radio Okapi, il a déclaré que ces hommes sont disposés à se regrouper dans un lieu pour leur reddition. Mais il a posé des préalables pour quitter les maquis. Il exige notamment la lettre d'amnistie et la reconnaissance de leur grade pendant leur intégration au sein de l'armée.
Et dans tout ça, quelle est la réaction des autorités militaires locales?
Nous n'avons pas réussi à joindre le commandant de la 32e région militaire des FARDC, le général Jean-Pierre Bongwangela, ni le commandant sectaire des FARDC à Ituri, le général David Rougaï, par rapport à cette main tendue des miliciens de la FRPI. Mais des sources locales indiquent que les FARDC continuent à traquer les miliciens pour les mettre hors d'état de nuire. Signalons, Berry, que la population de Walendubindi se dit inquiète de l'échec de ces processus. La société civile redoute surtout la recrudescence des exactions contre les civils, surtout les pillages des biens des habitants par les miliciens pour leur survie. Les notables de la collectivité de Walendubindi demandent aux deux parties de privilégier les négociations pour mettre fin à ces conflits armés qui perdurent depuis plus de 10 ans.
Merci beaucoup Isaac Remoyope pour tous ces détails à partir de Bounia en Ituri où vous êtes.
Merci.
Merci messieurs Berry Franklin Luchaka et Isaac Remoyope. Hubert Molicho, vous êtes ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité et Ordre public de la province orientale. Monsieur le ministre, selon vous, pourquoi les miliciens de la FRPI sont-ils rentrés dans leur maquis?
Oui, merci bien de m'avoir associé aux échanges de ce soir sur la situation qui prévaut actuellement dans le territoire du Goumou, en district de l'Ituri. Il faut d'abord se dire qu'il y a un fond de l'hypocrisie par rapport à la reddition du groupe FRPI à partir de leur chef, le milicien Cobra Matata, et qui apparemment semblait des autorités du pays et de la province qu'il avait l'intention de se rendre. Il a manifesté effectivement en sortant, mais quelque part, il a joué au malin en soufflant les chauds et les froids, et d'un côté, en disant qu'il allait mobiliser un grand nombre de ses miliciens à déposer les armes, à les rejoindre là où il est, pour que finalement on puisse envisager le processus de reddition de tout le monde et que la paix revienne dans les districts de l'Ituri, particulièrement dans les territoires d'Irumu, et qui a vécu sous les affres et des atrocités de ces groupes depuis de longues dates. Alors, au moment où il dit qu'il allait sortir avec un grand homme, ça n'a pas été chose faite, des fois que, bon, tantôt, il pouvait dire qu'il allait adresser un message, il a fait le message, ça n'a pas été suivi, et tantôt, il disait qu'il allait faire un écrit, il fait un écrit, et puis les gens ne réagissent pas positivement, un petit groupe sort, tantôt on dit qu'il va remettre les armes là, on ne le retrouve pas, et finalement, c'est ce fond de l'hypocrisie qu'on n'a pas réussi à obtenir les résultats. Que pendant qu'on attendait que les miliciens allaient sortir, ils ne sortaient pas et les armes parfois auxquelles on remettait, c'était des armes déjà défectueuses et qui ne pouvaient pas être utilisées. Bon, voilà un peu les décors dans lesquels se présente cette situation. Apparemment, comme c'est vécu avec Morgan qui sortait aussi, qui disait que il allait se rendre avec ces gens et qu'il attendait la présence des autorités civiles et que par la suite, bon, et il n'a pas pu le faire. Il en est de même pour cette hypothèse. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire dans les cas.
Monsieur le ministre, vous parlez d'hypocrisie de la part des miliciens de la FRPI. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'arrestation de Cobra Matata, leur chef, ne les aurait-elle pas découragés ou ne les aurait-elle pas effrayés?
Eh bien, l'arrestation n'intervient qu'après, après une tentative de vouloir s'échapper sans tenir compte de tout ce qui a été dit aux autorités à la fois provinciales et nationales. Et c'est alors qu'on a pu procéder à l'arrestation, sinon, dans un premier temps, il n'en avait pas été question, et il avait été sollicité, il était libre de circuler à travers la ville de Bounia et dans les différents petits coins. Il était véhiculé, il a connu des accidents, il n'a pas été bousculé, mais qu'est-ce qui a motivé la tentative de vouloir s'échapper, et aussi pour les miliciens eux-mêmes déjà qui se retrouvaient à partir d'Abeba et d'autres localités qui ne voulaient pas se rendre, qui utilisaient un double langage. Donc c'est ça ce que j'appelle fond de l'hypocrisie.
Et donc, en parlant de cette hypocrisie, on comprendrait par là que ça devenait un fonds de commerce pour eux.
Mais bon, un fonds de commerce, la malice, et même savent ce qu'ils avaient dans l'esprit. Pourtant, pour nous, le point de départ, c'est plutôt la sécurisation de l'Ituri, la paix dont nous avons besoin, la cohésion nationale, et aussi envisager le développement pour ce coin du pays et pourquoi pas pour toute la province et puis pour toute la République, puisque vous savez, le tourisme n'est quand même pas un milieu qu'il faut laisser comme ça en proie entre les mains des forces négatives que nous connaissons déjà en grand nombre là-bas. Vous allez à Mambasa, vous revenez un peu vers Irumu et vous allez vers Arou, c'est pratiquement le même tableau qui se présente. Alors, comme le chef de l'État l'avait dit, la main tendue pour que tous ceux qui aiment la paix, qu'ils puissent déposer les armes, sinon le gouvernement allait prendre ses responsabilités pour essayer de ramener la paix. Voilà un peu ce qui a été dit, mais qui n'a pas été malencontreusement plutôt suivi par ceux-là à qui la main a été tendue.
Monsieur le ministre, ils étaient cantonnés à Aveba. Dans quelles conditions vivaient-ils?
Ben, ils vivaient, on s'en occupait, ils vivaient dans des conditions. D'abord, un maquisard, quand il sort du maquis, ils attendaient, ils étaient en attente d'être acheminés sur Bounia, de Bounia vers Rwampara, c'est ça ce qui avait été prévu. Bon, et en dehors de ça, je ne pense pas que on peut parler d'autres conditions, je ne sais pas lesquelles, mais sinon les conditions de vie, elles étaient les conditions minimales de vie, hein, au moins celles qui soient favorables pour toute personne et qui doit vivre au quotidien comme tout Congolais.
En son temps, je pense que Kobra Matata, leur leader, avait également posé des préalables, notamment la reconnaissance des grades et beaucoup d'autres choses. Quelle était la réponse qui leur avait été réservée?
Eh bien, écoutez, sur la reconnaissance des grades, tout c'est la reconnaissance des grades, l'amnistie, c'est le point qui avait été soulevé pour qu'on puisse le reconnaître. On lui avait dit qu'il fallait aussi terminer d'abord avec la reddition de tout le monde hein, et que par la suite on pouvait trouver des réponses appropriées à donner à leurs préoccupations. C'est ça un peu ce qui avait été dit.
Alors, il y a eu des affrontements entre ces miliciens de la FRPI et les FARDC. Quel était le point de discorde? Est-ce que c'était pour les désarmer de force? Qu'est-ce qui s'était passé?
Ben, au fait, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que bon, les FARDC qui avaient intérêt à ce que le groupe puisse se rendre, mais c'est plutôt vu attaqué par les miliciens qui ne sont pas contents du fait que leur chef ait été pris et qu'il ait été acheminé à Kinshasa. C'est apparemment le fond du problème des attaques qui se sont déclenchées dernièrement.
Merci, Monsieur le Ministre. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Pierre Kibaka, vous êtes président du groupe Justice et Libération, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Pierre Kibaka, pour vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle des miliciens de la FRPI et qui ont regagné leurs anciens maquis?
Je commence d'abord par saluer Son Excellence Monsieur le Ministre Molito et le professeur Mahindo, à qui je présente mes vœux de nouvel an, comme avec tous les auditeurs de la radio Kati. C'est la première fois depuis le début de cette année que vous me donnez la parole. Vous savez, nous, on a toujours dit, comme défenseurs des droits de l'homme, que ce pays nous appartient tous. Il faudrait, c'est qu'on l'a toujours réclamé haut et fort, que l'impunité n'est pas être la règle dans ce pays. Vous savez, la réduction des militaires ou des militants ou je ne sais qui ne pouvait pas nous surprendre. Quand Kobra Matata s'est rendu, d'abord je vous rappelle, vous devrez vous rappeler, et les auditeurs de la radio au capitaine le savoir, que dans un premier temps, Kobra Matata avait été arrêté, il avait même été amené à Kinshasa. On se demande comment il s'est évadé de Kinshasa, de la prison, pour rentrer à Veba ou à Bounia. Donc, c'est ça le grand problème. Est-ce que les autorités qui nous dirigent comprennent réellement les soucis de la population? Et nous avons suivi par les images à la télévision, par la presse, que Kobra Matata s'était rendu. Il était avec le gouverneur de la province orientale. Il s'est dit qu'il s'était rendu. Même dans les réclamations qu'il avait faites, il dit, je me rends, mes hommes vont me suivre, mais il faudrait déjà qu'on reconnaisse mon grève de général. Et déjà à cette époque-là, je ne sais pas quelle est la réponse qui lui avait été donnée. Mais, curieusement, quelques temps après, on nous apprend que Kobra Matata est arrêté, on l'amène à Kinshasa, et vous pensez que tous ceux qui sont à ses côtés pouvaient accepter qu'on amène leur chef à Kinshasa, et qu'ils se rendent d'accord. Il faudrait qu'on comprenne que, qu'est-ce qu'on veut dans ces pays? Est-ce que nous voulons réellement que la paix reste dans le pays, où nous voulons à ce que nous puissions continuer à faire du cinéma pour prendre quelqu'un qui vient et demain matin vous l'arrêtez et nous continuons à nous plaindre. Les populations de l'Ituri, en particulier la province orientale, en ont marre de tous ces cinémas qui se font. On a connu le problème de Morgan. Morgan était sorti, il s'est rendu, nous nous sommes dit, est-ce que Morgan s'est rendu lui-même ou avec tous les hommes qui étaient avec lui? On nous a assuré que c'était la paix. On a arrêté Morgan. Nous ne savons pas jusqu'aujourd'hui. On nous a dit qu'il était mort. Mais qui l'a tué? Parce qu'il s'est rendu. Qu'on nous dise qui a tué Morgan et pourquoi. Parce que pour nous, comme défenseurs de l'homme, la vie humaine est sacrée. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Il y a eu l'amnistie qui avait été décrété par le chef de l'État. Est-ce que Kobra Matata pouvait jouir de cette amnistie, oui ou non? Voilà toute la problématique que nous avons. Et pour nous, nous pensons que ce qui s'est fait, c'est peut-être pour prendre quelqu'un, on l'amène, on lui dit, bon, on fait du cinéma, et demain, ces troupes, quand elles comprendront que ce monsieur, notre chef, a été arrêté, et vous pensez que tous ces gens de la SPRI qui pouvaient voir leur chef amener Mani Militari à Kinshasa, vous pensez qu'ils pouvaient continuer à se rendre?
Pierre Kibaka, quand vous parlez de cinéma, qu'est-ce que vous voulez dire? Voulez-vous dire qu'il y a hypocrisie non seulement de la part des miliciens de la FRPI, mais également des autorités?
Quand je parle du cinéma, je prends tout le monde. Je respecte bien l'excellence Molise qui est avec moi dans ce débat. Parce que nous disons, quand quelqu'un a commis des crimes, sa place c'est dans la prison. Il y a eu la loi d'amnistie. Il y a eu un délai pour la loi d'amnistie. Et si je me rappelle bien, il était question à ce que ceux qui peuvent bénéficier de l'amnistie puissent signer ces documents. Est-ce que Kobra Matata avait signé ces documents pour solliciter l'amnistie? Donc, pour moi, c'est le cinéma qui se fait à tous les niveaux.
Et en d'autres termes, Pierre Kibaka, vous auriez souhaité que, par exemple, l'arrestation de Kobra Matata soit reportée en attendant que le processus poursuive son cours normal et qu'on arrive à le juger ou à le libérer?
Pour moi, comme il s'est rendu, il fallait au même moment qu'on nous dise que Kobra Matata s'est rendu, qu'on l'arrête. Mais il ne fallait pas qu'on fasse la publicité à la télévision, à la radio pour dire voilà comme ma tante s'est rendue et après qu'on reconnaisse qu'il a commis des crimes. Pendant que comme ma tante s'était rendue, tous ces miliciens étaient à côté de lui. Est-ce qu'il pouvait encore se rendre quand comme ma tante a été amené Mani Militari à Kinshasa?
Voilà, professeur Alphonse Mahindo, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur, vous venez de suivre le ministre Hubert Molichaud ainsi que Pierre Kibaka. Quelle est votre lecture à vous?
Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais saluer mes deux collègues qui interviennent en ce moment, qui sont intervenus avant moi. Alors, pour moi, il me semble que cette situation qu'on vit en Ituri, c'est une situation qui rappelle bien qu'on est dans la nécessité de faire une action musclée pour neutraliser les forces armées qui, les milices armées qui écument cette province et qui écument également dans d'autres endroits du pays. Il est temps vraiment qu'on arrête ça. Alors, pour moi, il me semble que de la part des miliciens, l'armée, ça ne peut pas être une poubelle. Voyez-vous, on ramasse tout le monde, on met dedans, on récupère tout le monde, sans formation, sans quoi que ce soit. Ces différents éléments qu'on amène dans l'armée, sans aucune formation, sans aucune moralité, ces gens-là deviennent à la fin, quand on les intègre, ils désintègrent nos forces armées. Et on va décrier comme ça que nos forces armées ne sont pas capables, ne sont pas ci, ne sont pas ça. Donc, il me semble qu'on ne peut pas continuer à faire ça. Il faut donc retrouver, si vous voulez, les critères pour que les gens rentrent dans l'armée de manière, j'allais dire, correcte, comme dans toutes les armées du monde. Alors, en deuxième lieu, s'agissant de l'amnistie, il me semble que l'amnistie, il y avait une loi, donc chacun devait pouvoir faire sa demande, et aussi, il y a, si vous voulez, pour ce qui concerne l'amnistie, il y a des gens qui sont coupables des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, qui étaient donc inéligibles pour ça. Alors, il fallait donc que chacun dépose son dossier, et que ce soit examiné. Alors, pour moi, il semble que tout ça, c'est des faux fouillants d'exiger cela. On ne peut pas récupérer des gens comme ça pour avoir des grades ou avoir des cartes blanches, parce que sinon, on encourage les gens à continuer à prendre les armes au lieu de dialoguer, au lieu de poser leurs revendications verbalement, si vous voulez, avec auprès des autorités, parce que là, ça pose problème. Donc, il faut bien arrêter ce cycle à un moment, comme on l'a fait avec les M23, qu'on a détruit militairement. Alors, il faut donc continuer cette action avec cette montée en puissance des FRDC pour neutraliser les différents groupes armés. Mais ceci dit, le problème de fond demeure. Le problème de fond, il est lequel? pourquoi les gens se réveillent-ils un matin, commencent à prendre les armes et se soulèvent contre leur propre État, contre leurs propres autorités? Eh bien, c'est parce qu'il y a un certain nombre de revendications ou un certain nombre de besoins qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été satisfaits. Donc, on aura beau faire des actions de démobilisation, de désarmement, mais si les problèmes de fond ne sont pas attaqués, à savoir notamment les conditions de vie des gens, voyez-vous, il faudrait que les gens puissent avoir du travail. Il faudrait que les gens puissent avoir une éducation. Il faudrait que les gens puissent avoir accès aux soins médicaux. Il faudrait que les gens puissent avoir accès à des services sociaux de base, à l'eau, à l'électricité, etc. Toutes ces petites choses qui font que les gens n'auront plus aucun intérêt à aller en brousse. Donc il y a là, si vous voulez, une part des responsabilités de dirigeants d'émener des véritables politiques publiques en direction de nos populations pour couper, si vous voulez, la racine, l'herbe au pied de tous ces groupes armés qui pullulent et qui écument notre pays et qui tuent nos frères et nos sœurs.
Professeur, quand vous dites que l'armée n'est pas une poubelle, est-ce qu'on pourrait comprendre que vous êtes opposé à la reconnaissance des grades réclamés par les miliciens?
Évidemment, je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas comme ça récupérer tous ces gens-là, leur donner des grades de généraux, de colonels, et je sais pas moi quoi, etc., sans qu'on sache ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont. Parce que pour avoir ces grades-là, ça suppose que vous avez des compétences derrière ça, et que vous avez donc un certain nombre de savoir-faire que vous pourriez mettre à la disposition de notre force armée pour la défense de notre territoire. Est-ce que ces gens-là peuvent attester de ces compétences, peuvent attester de ce savoir-faire, voyez-vous, pour faire des choses? Je me souviens, il y a un moment, quand on faisait l'intégration des forces armées, je me souviens qu'il y avait un reportage que j'avais suivi qui était passé sur les chaînes de télévision belges et sur TV5 et Arte. Et ce reportage montrait des éléments, notamment qui étaient en recyclage ici au camp Lougoussa, sur la rive gauche. On avait là des officiers venant des différents groupes armés qui ne pouvaient même pas vous situer où était le nord, où était le sud, les quatre points cardinaux. Comment voulez-vous avoir un officier pareil pour qu'il puisse commander des troupes? Comment peut-il orienter les gens pour pouvoir mener des actions sur le terrain? Donc il y a nécessité, pour moi, de si on veut avoir des gens, il faut qu'ils suivent les conditions requises pour avoir des grades, c'est-à-dire savoir-faire, compétence.
Mais professeur, vous avez cité le problème de fond qui est une série de revendications non satisfaites. Mais ne fallait-il pas ne pas arrêter Cobra Matata, laisser le processus de reddition, de désarmement poursuivre son cours normal, écouter les revendications de ces gens et puis continuer?
Alors, vous savez, le Cobra Matata, je ne sais pas exactement dans quelles conditions il a été arrêté. D'après ce que j'ai cru comprendre de certaines personnes, souvent bien informées, il semble qu'il aurait été arrêté, j'ai dit bien il aurait été arrêté, lorsqu'il tentait de retourner pour aller rejoindre ses miliciens, ses partisans, là où ils étaient regroupés. Alors c'est dans cette tentative-là qu'il aurait été arrêté. Si tel est le cas, il me semble que il a pas tenu promesse, il a pas tenu parole par rapport à ce qui était attendu de lui. Alors je pense que on ne peut pas sacrifier la justice, on ne peut pas sacrifier l'intérêt général au profit des intérêts de certaines personnes. S'il était véritablement bien intentionné, je pense qu'il serait sorti avec ses hommes, voyez-vous, avec les armes et les munitions.
Merci.
Et ce qui n'a pas été le cas, il a eu tout le temps pour faire ça, mais il l'a pas fait. Il s'est sorti au moins avec la moitié de ses hommes. J'aurais compris qu'il avait une certaine bonne foi. Or là, ce n'était pas le cas.
Merci.
Donc, je doute fort, si vous voulez, de sa bonne foi. Et même s'il y avait bonne foi, je rappelle qu'il y a quand même eu des crimes graves qui ont été commis. et ces crimes graves, on ne peut pas les ignorer comme ça. Pensez d'abord aux victimes.
Merci, professeur.
Vous, tout à l'heure, j'étais content d'entendre mon collègue Pierre Tibac, fervent défenseur des droits de l'homme, de rappeler ça.
Professeur.
Il y a des victimes dont on doit prendre compte, oui.
Professeur, je vous redonne la parole tout à l'heure. Il est temps de permettre au ministre Hubert Molisch de répondre à vos préoccupations. Monsieur le ministre, professeur Mahindo parle des problèmes des fonds, des revendications de ces miliciens. Avez-vous eu l'occasion de les écouter? Qu'est-ce qu'ils revendiquent?
Mais écoutez, monsieur le journaliste, c'est bien de me poser la question, mais je pense que ce problème, vous l'avez soulevé. Et d'abord, pour qu'ils puissent constituer une milice, se retrouver dans la brousse, commencer à déstabiliser, à violer, à piller, à commettre des exactions sur la population, il n'y avait pas des revendications de départ. Si ce n'est pas un goût d'aventure, un goût de sucre, ou un goût de maltraitance sur la population. Mais les autres points que vous avez soulevés, sur les revendications des gardes, ils ont été écoutés. On a dit que c'est un processus. Ils ont parlé de l'amnistie. C'est un problème de processus. Je crois qu'il fallait attendre dès lors que la main du chef de l'État est tendue pour les enfants de la province orientale en disant qu'on a plus besoin de la paix puisqu'il n'y a rien de plus cher que ça pour construire notre pays. Il fallait que les autres comprennent plutôt que de faire passer à l'avant-plan les problèmes de grades ou de l'amnistie. Et quand on réclame déjà les grades, et avec ce phénomène de l'autoproclamation de certains miliciens, qui devient maréchal, qui devient général, personne ne veut être caporal ou sergent, tout le monde est officier, eh bien, ça pose problème, ce sont des questions qu'il faut étudier. Et je crois que ce que vous avez pu retenir, comme tout le monde, le commun des mortels, amnistie, reconnaissance de grade, tout ça, bon, on créerait autant d'armées dans notre pays pour que les uns à gauche et à droite puissent avoir leur grade auquel on doit se référer et qu'on doit confirmer par tous les moyens. Et je pense que là n'est pas le problème. Il faut que l'on parte au point de départ pour savoir et qu'est-ce qui a motivé d'abord à se rebeller contre les institutions en place et pour que l'on arrive effectivement à trouver des réponses appropriées par rapport à ça.
Monsieur le ministre, dans l'entretien que nous avons suivi en début d'émission entre nos collègues Berry Franklin Lutiaka et Isaac Remo, il est dit que le leader du groupe armé FRPI, Adiro Doumbadou, a réitéré son engagement à poursuivre le processus de paix avec les autorités militaires. Et entre-temps, les notables de la collectivité de Walendubindi demandent que soient privilégiées les négociations pour mettre fin à ces conflits armés qui perdurent depuis plus de 10 ans. Comment cela va-t-il se passer selon vous?
Mais écoutez, ce processus-là, ces revendications, enfin, disons, et cette expression du retour à la paix exprimée par les notables de Walendubindi ainsi que de nous-mêmes et du gouverneur de province, c'est des questions qui datent. On a eu à poser ce problème-là, mais pour lesquels on n'a jamais trouvé de réponse. Et aujourd'hui, le problème revient encore de nouveau. Et si Mbadou nous dit qu'il est de cœur avec le gouvernement pour qu'il puisse faire la reddition avec tous ceux qui sont derrière nous, nous saluons et nous attendons l'exécution, puisque comme l'a été leur chef, qui a montré qu'il était apparemment de bonne foi, mais il faudrait que le processus continue jusqu'au bout pour que tous ceux qui sont en brousse acceptent de rendre effectivement les armes qu'ils ont et que partout ils se retrouvent, qu'ils se remettent derrière les leaders qu'ils ont là-bas pour qu'ils soient à la disposition du gouvernement congolais, qui ne cherche pas à leur faire du mal autant que certains compatriotes l'ont fait à la population congolaise. C'est un peu ça ce qu'il faut comprendre comme démarche. Donc qu'il y ait des autorités qui demandent qui est la paix pour tous les Congolais vivant en province orientale, particulièrement dans les territoires du Rougon, vous savez qu'il est confronté à plusieurs problèmes avec d'autres multiples mouvements qui arrivent là-bas, d'autres personnes qui arrivent là-bas pour semer les désordres. Ben, il faudrait que l'on arrive à trouver des solutions pour ça. Nous sommes d'accord et nous avons une démarche stable du territoire du Rougon, de la chefferie de Walendubindi. Nous sommes derrière eux, nous voulons qui est la paix, puisqu'il faut avoir été là-bas pour vivre la misère de la population qui est pratiquement abandonnée à son triste sort, en train de se retrouver en errance dans la brousse, des conditions extrêmement difficiles, avec des enfants. Donc il faut qu'il y ait manifestation effectivement de cette volonté-là et que nous puissions parler du doigt la réalité pour que ce que nous recherchons
comme la paix et comme cohésion nationale que nous puissions l'obtenir.
Monsieur le ministre, les autorités militaires ont demandé aux déplacés qui avaient fui les récents combats de retourner dans leur village d'origine, qui sont sécurisés par l'armée. Mais entre-temps, la société civile de Walindo-Bindi se dit inquiète par rapport à la protection des populations. D'après vous, ces craintes sont-elles justifiées?
Oui, s'il vous plaît, je ne vous ai pas bien suivi vers la fin, vous disiez.
Je disais, monsieur le ministre, que les autorités militaires ont demandé aux déplacés de regagner leur village, mais entre-temps, la société civile redoute la recrudescence des exactions contre les civils par ces milices. Je demandais si ces craintes sont justifiées d'après vous.
Les craintes sont justifiées puisqu'il y a des dispositions qu'il faut prendre. Imaginez, le rôle de l'armée n'est pas celui d'assurer le maintien de l'ordre public dans les localités. Nous avions déjà effectué ces déplacements sur les structures du gouverneur de province jusque sur le lieu, en allant jusqu'à Kéti, en faisant le tour de toutes les localités qui sont là et nous sommes revenus. Et quand la police n'est pas là pour la sécurité de la population, mais les mêmes miliciens qui n'ont pas encore voulu se rendre, ils vont continuer pendant que l'armée n'est pas là. Ils vont continuer à commettre des exactions sur la population en faisant des incursions comme ils en ont l'habitude, avec des cas de viols répétés que nous avons enregistrés, des exactions sur la population, des pièces, des actes de vol. Donc il faudrait qu'il y ait apparemment un mécanisme arrêté pour que, au moment où l'armée demande, avec l'appui des autorités civiles, au moment où on demande que la population puisse regagner les villages qui ont été abandonnés, que la police soit là, au moment où l'armée a fait son travail, la police revient pour s'occuper de la sécurité des personnes et des biens dans les localités où vont se retrouver la population. Sinon, ça sera un travail inutile, parce que aussitôt que l'armée est partie et que la population restera seule, les miliciens vont commencer à revenir sur le lieu pour continuer avec leurs exactions sur la population, puisque c'est la population qui est la cible la plus visée pour déstabiliser les institutions du pays.
Voilà. Pierre Kibaka, est-ce que vous partagez ces craintes du ministre Hubert Molichaud quant à la protection des populations?
Ce qui me surprend, c'est que mon ami et mon bien-aimé, le ministre Molichaud, dit qu'il n'y a pas la police, il n'y a pas l'armée dans tous ces secteurs-là. Donc pour moi, c'est une défaillance coupable de l'État congolais et du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, si ces populations-là ne sont pas protégées, donc elles sont à la merci de ces miliciens. Tout ce que nous demandons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités. Il n'y a pas dans l'État congolais un territoire qui peut être insécurisé. Tous les Congolais, partout où ils se retrouvent, ils ont droit à être sécurisés et par la police et par l'armée. Donc, si aujourd'hui, on nous dit que dans le secteur des lignes ou quoi, je ne sais pas, il n'y a pas la police, il n'y a pas l'armée, comment voulez-vous que ces gens qui ont fait tous ces affrontements des militaires puissent revenir? Il est grand temps que nos responsables puissent se ressaisir. Pour comprendre que quand vous avez des rôles de responsabilité, vous avez intérêt à protéger tous les Congolais dans tous les coins qui se retrouvent. Et en deuxième lieu, j'ai bien suivi les ministres. Vous savez, nous, comme des facteurs de l'homme, nous avons toujours dit, c'est bien qu'on ait la paix. On ne peut pas dissocier la paix de la justice. On ne peut pas sacrifier la paix pour la justice. On ne peut jamais. Et d'ailleurs, moi, comme défenseur des droits de l'homme, je me suis toujours farouchement opposé à cette histoire d'amnistie. Vous allez amnistier quelqu'un qui a commis, comme le professeur Bayino l'a dit, des crimes imprescriptibles. Vous l'amnistiez et que deviennent les victimes? Et aujourd'hui, toutes les victimes que nous avons dans la République démocratique du Congo, est-ce que le gouvernement congolais a déjà indemnisé toutes ces victimes? C'est comme ça que les gens se permettent n'importe quoi. Ils se disent, je peux faire n'importe quoi, je viens, je tue, je viole, je vole, je sais que demain je serai amnistié. La grande responsabilité, la protection des personnes et de leurs biens de tous les territoires congolais incombe à l'État congolais qui est représenté par les institutions que nous gèrent. Donc, il est temps que le gouvernement provincial, nous savons que ce n'est pas le gouvernement provincial qui gère l'armée et la police, que le gouvernement provincial sécurise toutes les populations dans n'importe quel coin de la province, là où se retrouvent, pour ne pas les mettre à la merci des militaires pour dire non, nous n'avons pas de policiers là-bas, les militaires peuvent faire tout ce qu'ils veulent.
Alors, Pierre Kibaka, professeur Maindo, au début de son propos, disait qu'il fallait à tout prix briser ce cycle infernal des groupes armés. Selon vous, faudrait-il négocier comme demandent les notables des Walendu Bindi ou il faut des actions militaires musclées comme avait dit professeur Maindo?
Vous savez, les négociations sont toujours importantes dans un pays, dans une communauté, même dans un village. Mais le problème qui est là, le véritable problème, c'est que quand quelqu'un se met en dehors de la loi, il faudrait le sanctionner. On ne peut pas continuer à négocier avec les gens qui ont violé, avec les gens qui ont volé, avec les gens qui ont détruit. Donc, les négociations, moi comme Congolais, nous savons que dans notre pays, on a eu beaucoup de négociations. Quels sont les résultats de ces négociations? Comme le professeur Maïdo l'a dit, on a négocié avec le M23. Mais quand les actions musclées sont arrivées, le M23 s'est dit. Donc il faudrait qu'on puisse mettre les moyens à la disposition de notre armée, à la disposition de la police, à la disposition de notre service de sécurité, pour que ces gens-là sachent que je ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand dans un périmètre du territoire congolais. Aussi longtemps que nous aurons laissé ces gens-là, ils vont venir, ils vont piller, ils vont... On ne négocie pas avec quelqu'un qui a tué son frère. On ne négocie pas. On ne négocie pas avec quelqu'un qui a violé votre maman, votre soeur. C'est ça le grand problème. Il y a des crimes internationaux qui sont imprescriptibles. Il faudrait que nos dirigeants le sachent. On négocie avec quelqu'un avec qui on a eu un petit conflit. J'ai pris ta femme, bon, on va négocier. Mais quelqu'un qui a tué, qui a volé, et vous venez négocier avec lui pour qu'il devienne quoi?
Et donc la force reste la seule option.
Laissez-moi terminer. Vous savez, on a toujours dit, les voleurs reviennent sur les lieux du crime. Son Excellence, Monsieur le Ministre, il est parmi les hauts magistrats de ce pays. Il le sait. Je le lui dis en face, il est parmi les hauts magistrats de ce pays. Je connais la lutte qu'il a menée à Kisangani pour la lutte contre l'impunité. Donc, si aujourd'hui il est dans la politique, je lui demande de revenir.
Et donc, Pierre Kibaka, il faut que la justice fasse son travail. Professeur Maindo, qu'est-ce qu'il faudrait pour briser ce cycle infernal des groupes armés que vous avez fustigé?
Oui, alors pour moi, il y a, si vous voulez, il y a au moins deux axes. Majeur sur lequel on peut agir pour pouvoir briser ce cycle de violence. Le premier axe, c'est un axe qui vise à donner une leçon, si vous voulez, pour que toute personne n'ait envie d'aller prendre des armes quand il y a un différent, quand il y a un souci, quand il y a un besoin insatisfait. Et cet axe-là, c'est l'action militaire, c'est la puissance publique. Voyez-vous, donc l'État doit utiliser ses procédés de puissance publique pour pouvoir briser tous ces gens-là. Et quelqu'un, vous avez vu ce qui s'est passé en France avec les gens qui ont attaqué Charlie Hebdo. L'État a montré qu'on ne peut pas badiner avec la vie des citoyens français, la vie des gens qui habitent là-bas. Donc on a brisé ces gens-là, on les a écrasés assez rapidement pour que d'autres ne prennent pas l'initiative. Et donc il faut faire ça. En même temps, vous avez suivi aussi. Et ça, c'est le deuxième axe qui est important aussi, aussi important que le premier axe. Ça suppose qu'il faille aller vers les gens, qu'il faille faire un travail d'éducation, de la pédagogie. Mais ce que je disais tantôt en début d'émission, il faut chercher les véritables causes. Les gens sont dans la misère, les gens sont dans la pauvreté. Si les miliciens, les chefs miliciens, les chefs de guerre, les seigneurs de guerre arrivent si facilement à recruter, c'est parce que les jeunes sont désœuvrés. c'est parce que les gens n'ont pas d'école. C'est parce que les gens, même quand ils ont des diplômes, ils ne peuvent pas trouver de travail, etc. Donc, il faut faire de l'emploi, une politique d'emploi. Il faut faire une politique sociale pour donner des moyens de vie à ces gens-là. Il faut faire une politique sanitaire pour donner les soins médicaux à ces gens. Alors, on va couper l'herbe à ces seigneurs de guerre. Ils n'auront plus de gens qui vont les suivre. Parce qu'il y a des gens qui vont aller dans les milices là, parce qu'ils espèrent ainsi trouver, grâce à une arme, trouver les moyens de vivre, pouvoir trouver du pain ou quoi. Voilà ce qu'il y a à faire. Et donc notre gouvernement a une grande responsabilité à faire par rapport à ça.
Alors, professeur,
au moins ça, ce sont les deux principaux axes.
Professeur, maintenant oui. qu'il y a une méfiance visible entre les autorités et cette milice, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer ce processus d'intégration, de désarmement de cette milice?
Alors, à mon avis, pour pouvoir relancer ce processus, il faudrait, si on veut encore, si vous voulez, négocier. À mon avis, si on veut négocier, il faut d'abord faire un premier travail de tri. Voyez-vous ? Premier travail de tri, c'est quoi ? C'est d'être clair avec les uns les autres, d'être clair, en disant, nous allons négocier, nous allons parler, mais il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas transiger. Quels sont ces sujets sur lesquels on ne peut pas transiger ? Ce sont les crimes graves, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et tout ça, qui sont donc imprescriptibles selon notre propre loi et les conventions auxquelles notre pays a adhéré. Donc pour ces crimes-là, les gens qui ont été, les gens qui sont auteurs ou susceptibles de l'avoir commis, seront donc exclus de ces négociations et donc de toute possibilité de si vous voulez, d'amnistie et de réconciliation. Ils doivent d'abord faire réparation, c'est-à-dire payer pour leur faute. Si telle est clairement posée comme condition, alors tous les autres, là, les petits, tout ça, qui n'ont pas fait grand-chose ou quoi, alors on peut le récupérer, parce que finalement, ce sont des fils et filles de la République. La République doit ramener les enfants perdus dans la maison. Et pour ça, il y a donc un travail qui doit être fait, un travail de ce que John Hans appelle la démobilisation culturelle.
Voilà.
Donc il s'agit ici de construire l'image qu'on leur a donnée pour en faire des combattants. Donc il faut en faire maintenant des gens qui deviennent des partisans, des militants de la paix, si vous voulez, des
partisans
de leur pays, et non plus des guerriers, des miliciens qui vont détruire leur, qui vont lutter contre leur propre pays.
Merci professeur pour cette intervention qui prenait déjà des allures de conclusion. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Monsieur le ministre, comment entrevoir finalement la suite de ce processus avec cette milice de FRPI en guise de conclusion? Monsieur le ministre? Voilà, je crois qu'on a quelques problèmes avec la ligne de Monsieur le ministre Hubert Molichaud. On va tenter de le retrouver pour la conclusion, si on aura encore le temps. Pierre Kibaka, pour vous, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer ce processus de désarmement, d'intégration de cette milice de FRPI?
Dans ma conclusion, je rejoins justement ce que le professeur Marine vient de dire. C'est que tous ceux qui ont commis des crimes graves, ils ne peuvent pas participer aux négociations, ils ne peuvent pas être amnistiés. Les autres, là, on pourra voir comment on pourra les récupérer. Et de deux, quand ces gens-là viennent en reddition, il faudrait qu'on leur dise clairement que vous venez en reddition et sachez que dans cette reddition, vous avez commis des crimes graves, on va vous arrêter, vous devrez préjuger. Et non pas leur faire manger du beurre pour que le lendemain, on les arrête, manu militari, on les amène à Kinshasa. En ce moment-là,
merci.
Tout ce qui était derrière rentre en Bruxelles.
Voilà, malheureusement, on me signale que suite à des problèmes de liaison, on ne sait pas retrouver le ministre Hubert Molichaud, ministre provincial en charge de l'intérieur, sécurité et ordre public de la province orientale. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention, chers auditeurs et internautes. Merci également à Guy Maté, Berry Franklin, Luchaka, Paul Badianyama, Willem Lungamba, qui ont travaillé sous la supervision de Julien Nyamwenyi. Présentation et coordination, Alain Irung Mouchige. Au revoir.